Gloire au Seigneur. Voilà, nous partageons la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir la Bible au psaume 51. Psaume 51. Donc, on est en train de parler sur ce thème de l'autorité spirituelle. On a déjà évoqué, bien sûr, Jésus et son autorité. On a parlé la dernière fois des conditions préalables à l'exercice de l'autorité spirituelle. Et on a vu un premier point qui est la confession des péchés. On a expliqué cela dimanche dernier, la confession des péchés qui est indispensable afin que l'on soit net vis-à-vis de Dieu et net vis-à-vis des autres. Une deuxième condition préalable donc à l'exercice de l'autorité, c'est la repentance. Psaume 51 de David. Alors je vous invite à le lire et puis ensemble nous méditerons sur ce psaume. Psaume 51, au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fût allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige, annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas, loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui te sont agréables, qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières, alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Alors la repentance, c'est donc le mot qui traduit le grec métanoïa, qui signifie changement de mentalité, changement d'intention ou changement d'avis. Ce mot exprime aussi la tristesse que l'on ressent lorsqu'on a péché contre Dieu et la douleur d'avoir offensé Dieu. Donc il y a toutes ces notions qui sont contenues dans ce mot « repentance ». J'ai remarqué en regardant dans un dictionnaire que le mot « repentance » dans notre société actuelle est vu comme quelque chose de désuet, qui n'est plus d'actualité. C'est marqué dans le dictionnaire « vieilli » ou « littéraire ». Et pourtant c'est un mot qui est d'actualité, puisque si nous ne passons pas par la repentance, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Donc c'est un mot qui, par rapport à Dieu, non seulement il est toujours d'actualité, mais il nous faut le mettre en pratique. Pourquoi ? Parce que le cœur de l'homme est toujours le même. Il y a toujours des problèmes qui ne sont pas résolus à l'intérieur. Il a toujours soif de pardon, de vérité, d'amour. Et c'est par la repentance que l'on peut être réconcilié avec Dieu. Alors, les Bibles les plus récentes, j'ai consulté aussi quelques versions. Et on se rend compte que le mot repentance même a été souvent enlevé des versions les plus récentes. Par exemple, si vous regardez la Nouvelle Bible Second, bien ça a été traduit par changement radical. Si vous regardez la version Summer, ça a été traduit par changement de vie, etc. Donc il est même vrai que dans le milieu chrétien, la repentance telle que ce mot le souligne, eh bien, est de plus en plus même retirée des Bibles parce que les traducteurs pensent que les gens ne comprennent plus ce que ça veut dire la repentance aujourd'hui. Alors c'est dommage. Parce que Changement radical, changement de vie, ça exprime bien l'extérieur qui se passe dans la vie d'une personne qui s'est repentie. Mais le mot repentance, ça va plus loin que l'extérieur, car dans le mot repentance, vous avez d'abord un changement intérieur, un changement en profondeur qui va ensuite se refléter à l'extérieur, mais il est contenu dans le mot repentance. Alors on va parler de David. Qui ne connaît pas David ce matin? Il y a quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de David, le roi David? Tout le monde connaît? On aime tous les psaumes qu'il a écrits, on connaît tous sa vie, sa fameuse victoire contre Goliath. C'était un jeune qui était plein d'enthousiasme et puis après il est devenu roi. Il avait beaucoup de qualités, on cite souvent ses qualités, mais la Bible, voyez-vous, elle n'a pas fait de David un surhomme et elle a montré ses failles. Et David avait des sérieuses failles dans sa vie, notamment par rapport à une femme. Alors que le seul jour où il n'est pas parti à l'expédition, hein, c'est rapporté dans le livre de Samuel, il était resté dans son palais, alors que c'était un homme de combat, un homme de terrain qui aimait remporter des victoires pour le Seigneur. Mais ce soir-là, il n'est pas parti avec les autres, il est resté chez lui à se reposer, et puis certainement qu'il n'a pas pris le temps de prier, et puis qu'il était là sur son... il ne savait pas trop quoi faire. Il était sur son balcon là, et puis il a vu Bathsheba. Ça me fait penser à ces chrétiens qui ne savent pas trop quoi faire et qui sont en train de traîner, peut-être sur Internet, qui sont en train de traîner sur la télévision, ils ne savent pas quoi faire. Et puis c'est des occasions de chute, c'est des occasions de péché. Alors David, il est tombé comme ça. Il aurait mieux fait à ce moment-là de composer un nouveau psaume, par exemple, ou de se tenir dans la présence de Dieu, de faire autre chose. Mais non, il est allé traîner, il est allé dehors, et puis il a été tenté, donc il y avait Bathsheba qui était là. Il a vu cette femme. Au lieu de détourner son regard, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à la convoiter, et la convoitise a créé dans son cœur le désir de connaître cette femme, de l'inviter chez lui, et puis il a commis l'adultère. Bon, ça c'est tout un enchaînement, quand on lit ce récit, il y a beaucoup de leçons à en tirer pour nous, mais non seulement il y a eu l'adultère, mais en plus il y a eu meurtre, puisque Uri, le pauvre innocent, le mari de Bathsheba, a été tué quand même sous les ordres de David. En plus, David a fait comme si de rien n'était. Il a continué à exercer sa royauté. Il a d'ailleurs pris, quand Uri est mort, officiellement, il a pris Bathsheba chez lui pour femme. Mais en tout cas, ce qui est dit dans la parole, c'est que ce qu'avait fait David avait déplu à l'Éternel. Ça veut dire que Dieu avait assisté à toute cette dégringolade et cela l'avait déplu. En plus, David ne voulait pas confesser son péché. Il faisait comme si personne n'avait vu, même comme si Dieu l'avait en quelque sorte pardonné, entre guillemets, avait passé sur sa faute, alors qu'en réalité, Dieu attendait que David se repente et qu'il revienne dans les voies du Seigneur. Alors comment ça s'est passé? On l'a lu au verset 1er. Au verset 2, il y a Nathan le prophète qui est venu vers David. C'est-à-dire que Dieu qui avait tout vu a suscité un prophète, Nathan, et lui a dit « Tu vas aller voir David et tu vas lui parler de telle et telle manière. » Lorsque Nathan arrive devant David, il lui parle d'une parabole qui n'a rien à voir avec l'adultère. Il lui parle d'une histoire d'un pauvre homme en Israël qui n'avait qu'une brebis, une petite brebis qu'il gardait précieusement comme sa fille, dit le texte. Et c'était son seul bien. C'était un pauvre. Et à côté de cela, il y avait un riche propriétaire qui avait des brebis, des bœufs, tout ce que vous voulez. Et un jour que ce riche propriétaire, il reçoit un ami à la maison, plutôt que de prendre dans son troupeau, il est allé prendre la brebis du pauvre malheureux. Et quand David entend cette injustice, il dit « Mais c'est incroyable qu'en Israël, il se passe des choses pareilles. Cet homme mérite la mort. Il faut qu'il restitue à ce pauvre... » 4 fois plus que ce qu'il a pris, enfin il se met dans une colère, et puis vous avez ces paroles de Nathan, cet homme, c'est toi qui as fait le mal. Et ainsi son péché est dévoilé, là il lui parle de l'adultère directement, et puis David confesse sa faute et il se repent. On arrive donc à ce psaume 51, qui est un psaume de repentance, qui exprime comment, quand on a péché, on peut revenir à Dieu, et c'est nécessaire de revenir au Seigneur. Alors les versets 3 et 4, premier point, David exprime le désir d'être lavé de ses péchés. Versets 3 et 4, il y a trois verbes que vous pouvez repérer dans le texte qui nous parlent de ce désir. d'être lavé. Vous avez le mot effacer, d'abord au verset 3. Efface mes transgressions. Ensuite, au verset 4, vous avez le verbe laver. Lave-moi. Et un peu plus loin, verset 4, purifie-moi. Effacer tout d'abord. Efface mes transgressions. David exprime le désir que, en lui, il n'y ait plus de traces de son péché. On peut prendre une simple image pour montrer ce que c'est qu'effacer les péchés. C'est l'image du tableau noir. Quand on était enfant, quelquefois on était appelé au tableau pour faire une dictée. Alors on écrivait avec la craie, en faisant le moins de fautes possible. Et puis, la maîtresse, il lui arrivait de corriger quand on avait fait des fautes en rouge. Alors, il y avait pour certains, il y avait beaucoup, beaucoup de rouge, beaucoup de fautes qui étaient entourées. Et puis alors, devant tout le monde, c'était la vraie honte. C'était humiliant. Et puis, à un moment donné, puisqu'on allait passer à une autre leçon, eh bien, la maîtresse ou le maître, il prenait l'éponge, là, et puis il effaçait le tableau. C'est ça, effacer. Nos péchés ont été visibles aux yeux de Dieu. Bien sûr, on ne pouvait pas les cacher devant lui. Et Dieu a, en quelque sorte, effacé nos péchés. Le tableau est redevenu comme il était à l'origine. Il n'y avait plus ses fautes. Tout cela avait disparu. Le deuxième verbe qui est « lave-moi », ça c'est un terme qui est utilisé dans le blanchissage. Tous ceux qui nettoyaient les vêtements au foulon, c'est un terme pour montrer qu'on, comme on nettoie un vêtement, nous on dirait on le passe à la machine à laver aujourd'hui, mais à l'époque c'était d'une autre manière, et c'était ce terme-là. Et ça évoque ce terme que Dieu va nous laver, que un petit peu comme si on a des vêtements. Vous savez que Dieu nous donne, quand on se convertit, une robe blanche. Spirituellement, elle est blanche. Mais quand nous continuons à pécher, il y a des taches invisibles qui se greffent dessus. Et un petit peu comme de la boue va nous salir quand on fait une course en forêt, et qu'il a plu, on va revenir avec de la boue. Bien, le péché, c'est la même chose. Ça va salir nos vêtements spirituels. Et il exprime à Dieu, donc David, il dit « Lave-moi, lave mon âme impure, lave mon vêtement blanc pour qu'il redevienne blanc comme il était à l'origine, parce que là, il était plein de taches de péché. » Et puis le troisième verbe, c'est donc « purifie-moi ». Ça, c'est un verbe qui évoque plutôt les purifications rituelles, car Dieu avait institué dans la loi que le péché, quand on avait péché, il fallait subir certaines purifications, se mettre à part du peuple, etc. Et la purification, on le voit très bien dans le cas de la lèpre. Quand il y avait un lépreux, le lépreux était impur, et donc par rapport à Dieu, il devait être tenu hors du camp. Il ne pouvait pas avoir accès à la communion avec les autres, il était à part, jusqu'à temps qu'il soit pur. Et une fois qu'il était pur, alors il était déclaré guéri, et puis il était réadmis dans la présence de Dieu. Donc, qu'est-ce que veut dire David par « purifie-moi de mon péché » Il se sent un petit peu comme ces lépreux qui, à cause de leur maladie, étaient mis de côté. Et puis, il aspire à être purifié de ce péché qu'il a détruit à l'intérieur. La lèpre, c'était une maladie qui vous rongeait petit à petit, qui vous détruisait, qui vous faisait mourir. De même que le péché. Le péché, c'est une lèpre spirituelle qui va nous détruire à petit feu et nous faire mourir. Parallèlement à ces trois verbes, vous avez bien repéré maintenant, donc effacer, laver, purifier, vous avez trois termes qui font le parallèle, si on peut dire, qui concernent le péché. Il est question de transgression, d'iniquité et de péché. Concernant les transgressions, c'est au verset donc 3, efface mes transgressions, il s'agit en réalité de non-respect d'un devoir, d'une désobéissance à un commandement, quelque chose que l'on fait contre Dieu consciemment. Je vous donne un exemple simple. Nous savons tous qu'en France, il existe un code de la route. Le code de la route, parfois, on ne le connaît pas tout entier d'ailleurs, le code de la route, mais il existe. Et alors, je vais poser une question. Qui n'a jamais enfreint le code de la route de sa vie? Alors là, ça sera un miracle, hein? C'est presque impossible de jamais enfreindre le code de la route, ne serait-ce que limité à 50 en ville. Hein. 51, ah déjà, ça y est. 52, 53. Ça nous arrive malheureusement de transgresser. Et c'est ce mot-là, c'est le mot transgresser. Il y a une loi, il y a un code qui est le même pour tous les Français. Normalement, c'est le même pour tous les Français, mais on sait que pour le président, pour les ministres, il y a quelques tolérances. Hein. Mais normalement, le code de la route, c'est le même pour tous. Et si nous le... Si par exemple nous roulons à 60, 10 ou c'est limité à 50, nous transgressons. Et parfois, il faut bien l'avouer, on le fait consciemment. On le fait consciemment, bon, on sait que ce n'est pas tout à fait autorisé. Ou alors on va, allez hop, on va pas s'arrêter à un stop par exemple, on va quand même passer, on voit qu'il n'y a pas de voiture. Mais on transgresse à chaque fois, on transgresse. Et c'est ainsi que nous avons la parole de Dieu en tant que chrétiens et nous sommes tenus de la respecter. Et chaque désobéissance à tous les commandements de Dieu, c'est une transgression. C'est déjà quelque chose que Dieu enregistre hein, dans ses comptes et il dit, voilà, lui, cet enfant de Dieu, il a transgressé là. Et si nous ne demandons pas pardon pour ces transgressions, eh bien nous avons un contentieux avec le ciel parce qu'il y a toujours des péchés qui s'accumulent. C'est pourquoi, je vous dis, la repentance, c'est bon pour chacun de nous. Donc la transgression, c'est le premier terme que David utilise. Un peu plus loin, il dit, il parle des iniquités, « Lave-moi de mon iniquité. » Alors l'iniquité, ça se rapporte à ceux qui vivent dans la corruption, dans des mauvaises mœurs, des mœurs dépravées. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Bible, elle enseigne une certaine morale, mais aujourd'hui, la morale, elle est sous-évaluée. Par exemple, on vous dit, ce qui est bien selon la Bible, aujourd'hui, on considère que c'est dépassé. Par contre, ce qui est mal aux yeux de Dieu, on va dire aujourd'hui, mais c'est moderne, il faut vivre avec son temps, c'est comme ça qu'il faut vivre aujourd'hui, la liberté, chacun fait ce qu'il veut, pas de mariage, l'homosexualité, etc. Tout cela est davantage valorisé. Or, nous, il nous faut être clair que cela, la Bible appelle l'iniquité. C'est injuste par rapport à la justice de Dieu. En fait, c'est ça que signifie l'iniquité, c'est ce qui manque de justice. Et puis, le troisième terme qui est utilisé par David, après iniquité, c'est au verset 4, le péché. Bien sûr, le péché, c'est le terme le plus connu. Il signifie en fait manquer la cible, manquer le but que Dieu s'est fixé pour nous. À chaque fois que nous manquons les choses que Dieu a prévues pour nous, nous péchons, nous manquons. Alors c'est toutes les désobéissances, et là, consciente ou inconsciente. C'est pour ça que le péché, c'est quelque chose d'important. Il y a plusieurs mots, transgression, iniquité, péché. Il nous faut savoir en tout cas que même pour nous, un petit péché, entre guillemets, aux yeux de Dieu, c'est un péché et c'est quand même quelque chose qu'il faudra régler et qu'il faudra s'en repentir. Tout péché est grave aux yeux de Dieu et nécessite réparation. Comme David ne peut pas se purifier lui-même, de même que nous-mêmes, frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous laver de nos péchés, David se tourne vers celui qui peut le laver, vers celui qui peut effacer, vers celui qui peut purifier. C'est notre Dieu et il est là ce matin. Jésus-Christ à la croix a tout accompli pour nous, pour faire ces choses. Mais voyez que la démarche, elle est là, c'est le désir de prier le Seigneur, de dire « Seigneur, lave-moi de mon péché ». C'est la première attitude dans la repentance. Donc exprimer notre désir d'être lavé des péchés. Deuxième point, c'est au verset 5, c'est que David va reconnaître maintenant sa faute. « Je reconnais mes transgressions, mon péché est devant moi ». Ça, c'est l'étape qu'on a vue la semaine dernière. La confession des péchés qui est indispensable, qui fait partie de la repentance. En fait, David se déclare coupable et responsable de ses actes. Il ne va pas accuser la société, il ne va pas accuser Bathsheba, il ne va pas accuser les autres, mais il va reconnaître lui-même son péché. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend, oui, mais si la société changeait, alors les gens ils seraient différents. C'est un langage qui a toujours été tenu depuis des siècles. Hein, c'est déjà du temps de Jean-Jacques Rousseau qui disait « L'homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt ». Ça, ce n'est pas biblique. Hein. L'homme, il n'est pécheur, selon la parole de Dieu. Et il a besoin d'être changé. Mais pour certains humanistes, ils disent, mais les hommes sont bons par nature. Voyez, si on arrivait à faire la société une bonne société, les gens seraient bons. Or, on se rend compte que ce n'est pas le cas, parce que le problème est plus profond. Et vous avez beau changer la société. Moi, je me rappelle, quand j'habitais en région parisienne, ils avaient fait des immeubles tout modernes dans des quartiers difficiles. Ils avaient essayé justement de changer. Ils se sont dit, en changeant les bâtiments, vous allez voir, ça va changer les gens. Ils vont être heureux de venir ici. Alors, ils ont dépensé un argent monstre. Ils ont fait des bâtiments en forme de cercle, en forme de camembert. C'était ultra moderne. C'était avec des couleurs vraiment vives. Il y avait de tout. C'était joli. Eh bien, rapidement, peut-être ça a duré 2-3 ans, c'était couvert de graffitis. Il y avait des trucs cassés. Et finalement, ils ont abandonné leur projet parce qu'ils se sont rendus compte que vous pouvez faire tout ce que... Tant que le cœur n'est pas changé, vous pouvez changer l'extérieur, donner des bons, du confort, mais il y a toujours le problème du péché qui n'est pas réglé. Alors, ils ont essayé et ça n'a pas fonctionné. Alors, le contexte familial, certains accusent leurs parents, ils ont été mal éduqués, mal orientés, et puis c'est de la faute de l'éducation, etc. Non, quand on est devant Dieu, on doit reconnaître son péché. Je discutais avec une personne qui me disait il y a quelque temps, une dame qui avait fait une chute, c'est pas une dame qui vient dans c'était pas une chrétienne, bien qu'elle croie en Dieu comme ça, mais elle me disait, mais finalement, cette chute... le bon Dieu, il ne pourrait pas un petit peu m'oublier, comme si c'était Dieu qui était la source de tous ses problèmes, voyez. Et elle rendait Dieu finalement responsable de ses problèmes. Je lui ai dit, mais vous croyez que c'est Dieu qui va vous pousser comme ça et vous faire tomber? Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dieu, il vous aime, il veut votre bonheur, il ne veut pas votre malheur, il ne veut pas votre perdition. Et beaucoup de gens vont accuser les autres, voire accuser Dieu, pour refuser de reconnaître leur situation de pécheur devant Dieu. On le voit très bien avec Adam et Ève. Lorsqu'ils ont été vus par Dieu, Adam a accusé sa femme et Dieu, sa femme a accusé Adam, etc., etc. Alors David, lui, qu'est-ce qu'il se passe? Au verset 5, il souffre. « Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Il souffre de la situation de péché dans laquelle il est. Et ça, c'est normal. C'est un sentiment de culpabilité. Aujourd'hui, il y a tout un courant qui existe dans la société, par la psychologie, qui tente de déculpabiliser les gens par ces pensées qu'il faut être libre, chacun doit faire ce qu'il veut, aucun compte à rendre à personne, et puis surtout, ne vous culpabilisez pas. Mais ce n'est pas bon, parce que c'est du fait qu'il est culpabilisé, il va souffrir, il va demander à Dieu d'être libéré de cette culpabilité. Mais si vous dites aux gens « ne vous culpabilisez pas parce que vous avez fait du mal, etc. », bien, en réalité, vous les orientez mal et ils vont se déculpabiliser d'une manière humaine, mais ils n'auront pas réglé leurs problèmes avec Dieu. Or, la culpabilité que ressent David, elle était nécessaire et normale. Et ce sentiment va perdurer dans son cœur, c'est-à-dire il dit « mon péché est constamment devant mes yeux jusqu'à temps qu'il obtienne le pardon de Dieu ». Et c'est ça qui va déclencher un petit peu plus loin dans le psaume la joie, la louange, l'adoration, parce qu'on le voit après le changement qui va s'opérer quand il est pardonné. Donc ça, c'était le deuxième point. Il nous faut la confession des péchés, la reconnaissance de nos fautes. Troisième point, c'est au verset 6. La reconnaissance du juste jugement de Dieu. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. David sait qu'il est là devant le juste juge. Il mérite une condamnation parce que ce qu'il a fait, c'est mal. Et à la limite, il mérite d'être puni. Il mérite que Dieu le juge. Alors, il ne va pas chercher de circonstances atténuantes en disant « Mais Seigneur, tu sais bien que c'est... Il y en a plein d'autres qui le font. Hein, si on regarde le peuple, il y en a... Tu connais un tel, il a fait la même chose. » Il n'a pas essayé de se cacher derrière quelqu'un. Il était seul devant Dieu. Dieu le juge, qui a vu le péché, et Dieu qui peut condamner maintenant. Alors, dans l'aspect de la repentance, on sent bien qu'on ne peut pas faire appel. On ne peut pas chercher quelqu'un qui va nous défendre. Si Dieu nous condamne, personne ne peut contester. Mais si Dieu fait grâce, et puis on s'en remet à Dieu parce qu'il est juge. Mais s'il ne fait pas grâce, on est perdu. Mais s'il fait grâce, on est sauvé. Et comme Dieu fait grâce, alors personne ne peut contester la grâce de Dieu. De même que personne ne peut contester quand Dieu condamne, personne ne peut contester quand Dieu fait grâce, parce que tout ce que fait Dieu est parfait. Le diable, lui, peut-être voudra vous remettre la culpabilité si vous avez été pardonné et vous remettre sur le dos votre fardeau. Mais il faut toujours se rappeler que si nos péchés ont été effacés, s'ils ont été lavés par Christ, eh bien, le diable n'a pas le pouvoir de les remettre sur nous, sauf si nous lui donnons l'autorisation de nous recharger de nos péchés, mais ça, la faute revient à nous. En tout cas, si nous nous tenons dans la foi, frères et sœurs, le diable ne peut pas nous remettre nos péchés passés qui ont été confessés et qui ont été pardonnés, je précise. Parce qu'il y a des chrétiens quand même qui arrivent à vivre en retenant des péchés et en ne confessant pas tout péché. Ça, c'est un autre problème. Mais sinon, ils ont été confessés, qu'ils sont pardonnés, Le diable n'a aucun pouvoir pour nous les remettre sur le dos. Le psaume 19, verset 10 dit « La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais et ils sont justes. » Les jugements de l'Éternel sont vrais. Dieu est juge. Et David savait que là, il n'était pas dans une situation, vous savez, facile. Il fallait qu'il s'attende au juge. Et qu'est-ce que le juge va décider ? Eh bien, lui, il espérait la grâce, David, mais il ne pouvait rien faire pour obtenir la grâce. Il s'en remettait donc à Dieu. Verset 7. Un quatrième point, c'est la situation sans issue du pécheur. Comme David, comme tout être humain, il nous est rappelé qu'on est né dans le péché, dans l'iniquité. On est tous pécheurs de naissance. Tous les hommes naissent ainsi, car Romains 3, 23, par exemple, nous dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». Alors c'est vrai qu'un bébé, on dira, il est innocent, il n'a rien fait de mal. Oui, c'est vrai aux yeux humains, il n'a pas la réflexion, il n'a pas choisi encore entre le bien et le mal, mais néanmoins, dans ses gènes, dans sa race, on est issu de la race d'Adam, Adam et Ève. Du fait qu'on est issu de la race d'Adam et Ève, on est pécheur par nature. Et ce petit enfant est pécheur, Alors, les gens se posent la question, et s'il meurt avant d'avoir choisi Jésus ? On sait que Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, c'est lui qui décide par rapport aux enfants de leur éternité. Mais néanmoins, dès la naissance, nous sommes pécheurs et nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu. Alors, qui peut changer cette situation ? Personne sur terre, parce que le péché c'est héréditaire, on ne peut rien y faire. Et c'est Jérémie qui prend cet exemple, vous savez, en disant « Un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau ?» Ou « Un léopard, est-ce qu'il peut changer, effacer ses taches ?» Il ne peut pas. Ce qui montre qu'un être humain, quand il a le péché en lui, il ne peut pas s'en débarrasser tout seul. Nous sommes en quelque sorte dans une situation sans issue. Nous avons besoin de quelqu'un d'extérieur à nous qui va enlever nos péchés. Et bien sûr, nous savons que c'est Jésus. Mais verset 7, vous voyez, David prend conscience que dans sa nature humaine, il y a le péché qui est attaché à lui et il sent bien qu'il a besoin d'en être délivré. Le cinquième point, c'est le verset 8. C'est maintenant la volonté de Dieu. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. La volonté de Dieu, elle est double. D'abord, Dieu veut changer nos cœurs parce qu'il veut que la vérité pénètre dans notre cœur, dans un cœur qui est dans le mensonge, qui est dans la dissimulation. Ce que Dieu veut, c'est la vérité. Donc, il va falloir prendre position. Il est vrai que certains ont peur de la vérité. Et le diable vous fera toujours peur de dire toute la vérité parce qu'il veut vous tenir dans le mensonge. Mais frères et sœurs, nous ne devons pas craindre la vérité, de vivre dans la vérité, de vivre dans la lumière. Moi, je me rappelle toujours cette parole de Jésus qui dit à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. » La vérité, c'est positif. La vérité, ça libère. La vérité, c'est nécessaire quand on est enfant de Dieu. On ne peut pas marcher dans le mensonge ou dans la dissimulation. La vérité vous rendra libre. Le diable vous dira, la vérité, si vous dites la vérité, vous allez avoir des problèmes, ça va mal se passer, vous allez être rejeté, on ne vous croira pas, etc. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit, la vérité vous rendra libre. Donc nous devons nous tenir à la parole et pas à des craintes ou à des pensées. Nous devons vivre dans la lumière. Vous êtes la lumière du monde. On ne craint pas la lumière, nous, mais on aime la lumière. Quand Dieu éclaire notre âme, notre vie, on n'a pas à craindre. Si on a confessé nos péchés, on a demandé pardon, eh bien on est pur devant lui. On ne doit pas craindre la lumière ni la vérité. Autre chose, c'est la sagesse, au verset 8 toujours, puisque David se rend compte qu'il a agi comme un fou lorsqu'il a commis cet adultère, ce meurtre. Il a été insensé et il prie le Seigneur. Seigneur, fais pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Dans ma vie, j'ai fait des folies. Dans ma vie, je me suis conduit comme un païen et maintenant, je ne veux plus de ça dans ma vie. Fais pénétrer la sagesse, c'est-à-dire la sagesse divine, dans mon comportement, dans mes pensées, dans mes actions. Donc, il aspire à ce changement dans son cœur. À la fois la vérité, à la fois la sagesse. Un sixième point, c'est au verset 9. Le moyen de purification du péché, c'est donc le sang. Purifie-moi avec l'hysope. Et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Alors l'hysope, qu'est-ce que c'est ? C'est un arbrisseau qui était utilisé, on le trempait dans le sang, et on aspergeait, on se servait de cet arbrisseau pour asperger de sang, par exemple, une personne. Je vous donne un exemple, un lépreux, où une personne qui avait été touchée, qui avait touché un mort, il devait être purifié de cette manière-là. Et c'est pourquoi David prend cette illustration, purifie-moi avec l'hysope. Il avait besoin que ses péchés soient couverts par le sang, en quelque sorte. Alors, le lépreux, comme ceux qui avaient touché un mort, c'était des gens, je l'ai dit tout à l'heure, qui étaient exclus de l'assemblée. Ils n'avaient plus le droit à la communion, ni avec Dieu, ni avec les autres, pour un temps. Et à cause de son péché, David ressent que lui-même est exclu. Il est exclu de l'assemblée, il est exclu de la communion avec Dieu, et c'est pour ça qu'il demande pardon, parce qu'il souhaite une réintégration, il veut revenir à Dieu. Et ainsi, il sait que si le sang, alors à l'époque c'était le sang des animaux, des boucs, des béliers, mais aujourd'hui c'est le sang de Christ, il sait que si le sang passe sur sa vie, eh bien Dieu lui fera grâce. Il a compris le pouvoir, la puissance qu'il y a dans le sang répandu. Et si on bascule dans la Nouvelle Alliance, alors tout s'éclaire avec la croix, puisqu'à la croix, c'est le sang de Christ qui a été répandu, et en quelque sorte, il y a cette aspersion. La Bible parle de l'aspersion du sang de Christ, de même que là il est question d'aspersion avec l'hysope, aspersion du sang des animaux, pour nous c'est l'aspersion du sang de Christ. Dans Hébreux 9, 12, Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il est entré avec son propre sang, donc nous sommes couverts par le sang de Christ quand nous sommes enfants de Dieu. Il y a un autre texte qu'on avait lu la semaine dernière, 1 Jean 1,7. Si nous marchons dans la lumière, il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc ce sang, il est puissant. Ce sang, il est actif. Bien sûr, c'est spirituel. Malheureusement, certains croyants ont cherché des reliques, beaucoup de reliques de la croix, beaucoup de reliques des épines du Christ, de la couronne du Christ, ou alors des reliques du sang. Il existe même des reliques du sang de Christ, comme si ça avait un pouvoir quelconque. Rien n'est moins sûr que ce soit le sang de Christ de toute manière. Mais en plus, quand bien même ce serait le sang de Christ en lui-même, il n'y a aucun pouvoir dans cette matière-là. Le sang de Christ, c'est spirituel. C'est d'une manière spirituelle que nous le comprenons et que nous devons le vivre. Pas de superstition. En tout cas, au verset 10, on voit que la joie revient dans son cœur. Il sent que ses péchés sont couverts. Verset 10, « Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. » Alors, le pécheur, il ne peut pas être dans la joie tant qu'il n'est pas pardonné, mais lorsqu'il va vivre ce pardon, il va sentir vraiment les bénéfices de la repentance. La repentance, quelque part, ça fait mal, ça fait pleurer, ça fait souffrir un temps, et après, on bénéficie de la joie. En fait, tant qu'on est pécheur, on vit avec un poids de culpabilité dans sa vie. Je me rappelle le jour de ma conversion où j'ai cédé à Dieu, j'ai donné mon cœur à Jésus. J'étais dans une réunion, c'était dans un culte, et je me rappelle très bien que je suis sorti du culte, mais déchargé d'un poids qui était sur ma vie, sur mon âme. Un fardeau immense qui me tenait aplati, et je suis sorti pour la première fois, j'ai senti la liberté par rapport à Dieu. Parce que j'avais beaucoup de péchés dans ma vie que je n'avais pas confessés. Et quand là j'ai tout dit au Seigneur, j'ai tout confessé, j'ai donné mon cœur au Seigneur, vraiment, je suis sorti libéré. Quel bonheur quand on a fait cette expérience de la repentance et qu'on peut enfin retrouver la joie. Tout le monde aspire à la joie. Même le monde aspire au bonheur. Tout le monde cherche ces choses-là. Mais vous savez, on ne les trouvera pas dans les plaisirs du monde. Rien ici-bas ne peut combler notre cœur. Par contre, la Bible dit, psaume 5, 12, « Ceux qui se confient en Dieu se réjouiront et ils auront de l'allégresse à toujours. Tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. » Il y a d'abondance de promesses dans la parole pour la joie que nous avons en Dieu. Verset 11, un autre point ici, c'est l'expiation qui est réalisée. Alors ça, c'est le miracle qui s'opère, vous voyez. D'abord, il y a eu la confession, il y a eu la repentance. Et puis, il dit « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. » Ça, c'est ce que David ne pouvait pas faire. Dieu va détourner son regard de ses péchés. Expier ses péchés, expier, ça veut dire couvrir. pour nous, dans la Nouvelle Alliance, Jésus a expié nos péchés, c'est-à-dire qu'il a couvert nos péchés par son sang. Le salut, c'est toujours gratuit. On n'a rien payé pour être sauvé. Mais il faut toujours se rappeler que quelqu'un a payé pour nous, c'est Jésus. Parce que pour lui, ce n'était pas gratuit. Pour lui, il a payé de sa vie. En fait, c'est ce qu'il y avait de plus cher. Encore, on donnerait 10 000, 50 000, 100 000 euros. C'est une grosse somme. Mais payer de sa vie, c'est quand même ce qu'on a de plus précieux, même nous. L'argent, c'est une chose, mais la vie, c'est autre chose. La vie, c'est le plus élevé. Jésus, donc, a payé de sa vie, et la vie de Jésus, c'est encore pas comparable à la vie d'un être humain classique, puisqu'il était le Fils de Dieu, sans péché, sans tâche. Donc, on ne peut pas comprendre le prix élevé que Jésus a payé, qu'il n'avait pas pour lui-même à le faire, mais qu'il l'a fait entièrement pour nous, pour vous, pour moi. Il a donné sa vie à la croix. Donc, n'oublions jamais que si c'est gratuit pour nous, pour lui, ça a coûté très cher. Le sang, les meurtrissures, les souffrances, la croix, l'ignominie. Alors, si Dieu peut pardonner gratuitement, oui, ben, c'est parce que le jugement, la condamnation, la colère de Dieu est tombée sur quelqu'un, sur Jésus, qui a tout subi à ma place. C'est ça l'expiation. C'est une sorte de substitution. On utilise ce langage pour expliquer que, bien sûr, Christ est mort à la croix, mais à la croix, il a porté mon péché. Il s'est substitué à moi. À la croix, c'est lui qui a subi le jugement de Dieu à ma place. Il a été condamné, lui, pour que moi, je sois gracié. Vous voyez l'œuvre de la croix ? Il a été jugé pour que je sois pardonné. Il est mort pour que j'aie la vie. Donc, il a subi tout le négatif pour que moi, ça découle sur moi du positif. C'est le miracle de la croix. Et quand Dieu me voit ce matin, un petit peu comme David, détourne ton regard de mes péchés, c'est-à-dire que Dieu nous voit couverts par le sang de Christ. Ce sang expiatoire détourne le regard de Dieu de nos péchés. Quand Dieu nous voit, il voit le sang de Christ, il ne voit plus nos péchés. Et donc nos péchés sont quelque part effacés, comme cela. Et personne ne le mérite, c'est une pure grâce. On peut terminer avec le verset 12. Un neuvième point, c'est le cœur purifié. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. David sait très bien que le problème, il est dans son cœur. Le cœur humain est toujours tortueux et méchant, il est dur. La Bible dit qu'il est dur comme le diamant. Et sur terre, il n'y a pas plus dur que le diamant. C'est le matériau, encore aujourd'hui, le plus dur qui existe. Pour montrer qu'un cœur humain, c'est sourd à la voix de Dieu, c'est rebelle à Dieu, et le péché a en quelque sorte endurci le cœur de David. Il a endurci notre cœur. Et il va falloir vraiment une repentance profonde pour briser cette dureté, cette carapace. Un peu plus loin, il est question d'un esprit brisé, un cœur contrit et brisé. Et bien pour briser un cœur, il faut une réelle repentance. Ça ne se fait pas tout seul. C'est nécessaire qu'on y participe et qu'on demande au Saint-Esprit de nous délivrer de cette dureté par rapport à Dieu. C'est Dieu qui purifie le cœur, oui. Il désire nous donner un cœur nouveau. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Donc la volonté de Dieu, c'est, comme dit David, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Dieu va nous donner un cœur pur. Et puis, notre état d'esprit. Un esprit bien disposé. Parce qu'à l'origine, notre état d'esprit, il est mal disposé vis-à-vis de Dieu, mais David le ressent et il veut lui être bien disposé vis-à-vis des choses de Dieu, dans ses pensées, entretenir ses pensées par des psaumes, des hymnes, des cantiques, c'est comme ça qu'on est bien un état d'esprit bien disposé. Les vrais intérêts, les intérêts des choses de Dieu, et puis notre vision des choses. Alors le résultat, il est tout bénéfique pour le pécheur. Son cœur qui était sale, qui était souillé, va être purifié, et puis son esprit, son état d'esprit rebelle va être changé en un état d'esprit bien disposé. Donc on voit que la repentance a eu lieu dans son cœur, il y a eu un travail, il a beaucoup souffert, il a beaucoup pleuré à cause de tout cela, mais en définitive c'était nécessaire et ça a permis de restaurer sa relation avec Dieu, ça lui a permis de retrouver une autorité spirituelle, parce que tout le temps où il était dans le péché, où il avait fait comme si Dieu ne voyait pas, il n'avait plus l'autorité spirituelle. Il était nécessaire de passer par la repentance. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais moi je me suis déjà repenti de mes péchés. Et c'est normal, et je l'espère. Déjà, la première repentance, c'est le jour où on s'est converti. On a demandé pardon à Dieu, c'est la repentance. Mais il ne faut pas croire, frères et sœurs, qu'on ne fait qu'une seule repentance dans sa vie. Et David, il était déjà croyant quand il s'est repenti. Il était déjà, il croyait déjà en Dieu, il était dans sa marche de croyant. Donc la repentance, elle est indispensable tout au long de notre vie chrétienne. C'est vrai qu'on se convertit une fois quand on donne son cœur au Seigneur, mais la repentance, elle revient à chaque fois que l'on s'est éloigné vraiment de Dieu, comme là c'est le cas. On a péché, on a fait des choses mauvaises, c'est nécessaire de le vivre aussi. Alors on va prier un instant le Seigneur. Dieu est plein d'amour, mais on ne peut pas le tromper. Dieu est plein d'amour, mais il y a quand même une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il n'efface pas le péché comme ça pour rien. Il y a de notre côté quelque chose qui l'attend, la confession, la repentance. Et ça, ça permet à Dieu de pardonner, d'effacer. Bien sûr, on ne peut rien faire, si vous voulez, on ne peut rien payer nous-mêmes. Christ l'a fait. Mais on sait qu'on a notre part à faire, qui est de demander pardon à Dieu et de nous repentir sincèrement, avec un cœur brisé. Ça va se faire peut-être dans les pleurs, dans les larmes devant le Seigneur, parce qu'on sait qu'on a vraiment été mauvais, méchant, dur dans certains domaines. Mais Dieu, qui est plein d'amour, va permettre que la joie revienne, que la louange revienne. On n'a pas eu le temps de voir la fin du psaume, mais vous le voyez très bien à la fin, où David parle de la louange, de l'adoration, de sa communion qui est restaurée avec Dieu. Tout ça, c'est possible, mais après la repentance. Et ça dépend de chacun. David aurait pu refuser de se repentir, il aurait pu s'endurcir et finir comme Saül, qui s'est détourné de Dieu et qui a fini en se suicidant. Il aurait pu mal tourner, mais il avait un cœur pour Dieu, il aimait le Seigneur plus que toute autre chose, et il a voulu régler sa vie, rectifier dans sa vie tout ce qui n'était pas la gloire de Dieu. Il y avait du travail à faire. Eh bien, il l'a fait. Faisons-le, frères et sœurs, consciencieusement. Ne pensons pas que ce sont des choses à qui Dieu va passer comme ça. Ce n'est pas si important que cela. C'est très important. Les sujets que l'on traite en ce moment, on a commencé avec la confession, on poursuit ici avec la repentance, ce sont des sujets vraiment fondamentaux sans lesquels on ne peut avoir aucune autorité spirituelle, ni par rapport à Dieu, mais même par rapport au monde occulte. On a parlé des mauvais esprits, du diable. Dieu sait très bien si quelqu'un ne s'est pas repenti, mais le diable sait aussi, parce que le diable, il a un accès dans le cœur de cette personne. Tant qu'elle ne se repent pas, eh bien, le diable est content. Parce que quelque part, il tient la personne, il la tient liée. Et il ne veut surtout pas que vous vous repentiez, vous comprenez? Donc c'est à nous de prendre position. Merci pour ta parole qui nous rappelle ces choses importantes avec lesquelles nous voulons, Seigneur, prendre un grand soin de les étudier, de les méditer et de les mettre en pratique. Tu sais dans nos vies, dans nos cœurs, s'il y a des choses qui n'ont pas été confessées, pour lesquelles nous n'avons pas demandé pardon. Je te prie, Seigneur, d'éclairer chacun, de mettre en lumière, peut-être là où ça fait mal, là où les choses n'ont pas été réglées, afin que toi-même tu tourmentes par ton esprit chacun, pour que les choses soient aplanies, que la vérité soit au fond de nos cœurs. Nous ne voulons pas marcher dans le mensonge, la dissimulation, la fraude, mais nous voulons marcher dans la lumière et dans la vérité, comme ta parole nous le montre. Seigneur, merci de faire grâce à chacun. Nous savons que tu es un Dieu d'amour. Simplement, tu nous as rappelé tes exigences et ce que tu attends de nous. Eh bien, nous voulons le prendre en considération et ne pas traiter ces choses à la légère. Bénis mon frère, ma sœur, et encourage ton peuple, Seigneur, à vivre dans cette victoire. Merci aussi pour le pécheur qui est pardonné, qui est vraiment libéré de ce fardeau, de ce péché, et qui peut vivre dans l'adoration, la louange, dans la communion avec toi, et qui a retrouvé cette intégration au sein du peuple de Dieu après la repentance. C'est toi qui le permets, Seigneur, dans ta grâce. Et nous voulons nous souvenir toujours de l'œuvre de Christ à la croix, son sang qui nous a purifiés de tous nos péchés, son sang qui a coulé, oui, mais Christ a pris notre place. Et nous qui devions mourir, il a tout accompli pour nous. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ton précieux sang qui nous purifie de tout péché. À toi toute la gloire. Amen.